C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour. Dans un brin d'histoire, nous allons parler aujourd'hui des Templiers et leur présence dans notre région. L'histoire des Templiers commence sous les meilleurs auspices. La prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099 par les croisés, va nécessiter la mise en place d'une force de protection déployée sur l'ensemble du territoire conquis. Les États latins d'Orient doivent faire face à la menace permanente des armées musulmanes et à l'insécurité quotidienne. Baudouin II, roi de Jérusalem, 1118-1131, accueille les propositions de deux chevaliers, l'un champenois, Hugues de Pins, l'autre flamand, Godefroy de Saint-Omer. Ces chevaliers ont la volonté d'assurer en homme de Dieu et au nom du Christ la protection des routes, des chemins et des pèlerins en partance pour la Terre Sainte. Même les plus réticents à l'idée d'une église en armes sont vite convaincus. L'ordre religieux et militaire des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon semble promis à une destinée glorieuse. L'ordre est créé lors du Concile de Naplouse le 23 janvier 1120. Voici un chevalier sans peur, protégé contre les dangers. Son corps est recouvert d'une armure de fer, son âme d'une armure de foi. Les Templiers se présentent avant tout comme des religieux qui mettent leur épée au service du Christ. Ils intègrent l'Église sans renoncer au métier des armes. Est-ce possible? Encore faut-il que cet ordre, tout petit au début, puisse se développer. Pour cela, Hugues et quelques compagnons vont entreprendre un immense périple en Occident. Ils rencontrent le pape, les cours royales d'Anjou, le roi d'Angleterre, le roi d'Écosse. Ils obtiennent ainsi des dons et suscitent des vocations. Sanctifier la guerre, même sous la forme de la croisade, ce n'est pas s'abaisser au djihad des Sarrasins. Ils expliquent cela à Bernard, abbé de Clairvaux, grand personnage spirituel de ce siècle. Qu'il donne ou qu'il reçoive la mort au combat, ces chevaliers qui sont en même temps des moines trouveront ouvertes les portes du paradis. Bernard de Clairvaux rédige pour eux la règle du temple. Les frères auront un style de vie conventuel proche de celui des cisterciens, tout en continuant à suivre la coutume féodale. Les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon prononcent trois vœux. Obéissance, chasteté, pauvreté. Ils s'engagent à vivre en commun. On ne peut exiger d'eux qu'ils jeûnent et passent leur temps aux offices religieux. La règle qu'ils suivent s'inspire de la règle de Saint Benoît, mais on lui accorde des aménagements. Le sceau du temple montre deux chevaliers sur le même cheval. Cela, bien sûr, a prêté à confusion. Il ne s'agit pas là d'homosexualité, comme on a dit, mais d'humilité et de leur entraide. ils mangent aussi à deux, dans la même écuelle. Il faut bien savoir que c'est au prix de milliers de morts que les Occidentaux ont pu occuper les lieux saints de Jérusalem, Nazareth, Bethléem, et aussi une large bande côtière s'étendant de la Turquie à l'Égypte. Ces nouveaux États bénéficiant des populations locales, encore en majorité chrétienne, et souhaitant en finir avec le joug musulman. La plupart des croisés, une fois leur vœu accompli, sont repartis chez eux en Europe, et le manque d'hommes se fait sentir et ne sera jamais résolu. Pour l'instant, les croisés ont l'avantage et remportent des succès, mais cela est fragile. Il y a aussi des querelles féodales qui divisent et qui amènent à la trahison. En plus de la défense des lieux saints et de la reconquête de la foi chrétienne, de la reconduite des pèlerins, le prologue et la règle précisent que la fondation du temple fut faite pour refleurir et ressusciter l'ordre de la chevalerie. Le concile de Troyes, 1129, donna aux chevaliers du temple le droit de posséder des terres, des dîmes. Célestin III, en 1097, ôte aux templiers toute tutelle civile et religieuse. La croisade connaît aussi un regain de ferveur. De nombreux nobles rejoignent l'ordre et ils reçoivent de nombreux dons en espèces et en nature, en France surtout. Le temple constitue un vaste patrimoine foncier. À la guerre, il forme de petits escadrons mobiles ou échelles autour d'une bannière. Ces cavaliers d'élite sont assistés par des écuyers et des sergents armés plus légèrement et qui participent au combat. Bien conduite, la charge de cavalerie sème la terreur dans les rangs ennemis, à condition que ceux-ci acceptent le combat. Les Turcs agissent en refusant le combat et en s'enfuyant. Ils harcèlent ensuite sans cesse, et c'est la tactique de la fuite simulée, entraînant l'ennemi vers un guet-apens. Les Templiers s'adaptent. Ils créent autour de la cavalerie traditionnelle des corps auxiliaires de cavaliers légers, les turcopoles, ainsi que des piquiers, des archers et des arbalétriers. Tous ces frères templiers portent le même habit blanc et la croix rouge. Les autres, s'ils n'ont pas prononcé les vœux, se contentent de la bure noire. En 1147, les templiers vont sauver Louis VII dans la traversée de l'Asie mineure, son armée étant harcelée par les Turcs. Les templiers montrent une grande discipline. Ils vont au combat, en ordre, sans bruit, et attendent l'ordre. Les succès de l'ordre lui valent très vite des émules. L'ordre charitable des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem se militarise dans les années 1160 et se crée l'ordre des chevaliers teutoniques également. À leur mort, les frères du temple, comme les moines, étaient enterrés dans leur habit monastique que l'on appelait habit de maison pour le distinguer de l'autre utile pour le combat. La symbolique du retour à la terre voulait que le cadavre soit déposé à même la terre, sur le sol et pas autrement. Au début de l'ordre, aucune mention de naissance n'était demandée, mais à partir du XIIIe siècle, on demandait d'être fils de chevalier et être de naissance légitime. La grande aventure des frères du Temple va au cours du XIIe et XIIIe siècle évoluer en leur défaveur. La reconquête des Sarrasins sur la Terre Sainte avec Saladin va être d'une violence inouïe. Des décapitations des frères prisonniers étaient systématiques pour montrer la supériorité du Coran sur l'Évangile. La plupart des châteaux et places fortes vont tomber dans les années 1270. Lors de la chute de Saint-Jean d'Acre, en 1291, les chevaliers se battent jusqu'à la mort. Cette défaite est la fin de l'occupation en Terre Sainte. Les hospitaliers se réfugient à Rhodes, puis Malte, où ils continueront la guerre contre l'expansion turque en Méditerranée. L'ordre est basé en Orient, mais pour le soutien, il a besoin de l'arrière. Il crée ses commanderies. Alors, les commanderies et les maisons étaient généralement distantes d'une journée. Les 1160 commanderies et maisons implantées en France suivent des critères commerciaux, les régions riches, de fort trafic économique, les grandes foires. La terre est la base de leur puissance économique. Les Templiers s'enrichissent grâce aux donations foncières, les achats, les ventes, les échanges, bien plus que par des espèces. Et les Templiers n'ont pas été les banquiers de l'Europe comme le furent les Lombards. Cette idée est fausse. C'est un fait que les Templiers ont joué le rôle de banquiers, de dépôts, de prêts, sans exagération. En 1146, Louis VII, par exemple, se trouvant fort démuni en Terre Sainte, devra emprunter aux Templiers 2000 marques. De même, pour Saint-Louis, en 1250, ils paieront la rançon au sultan d'Égypte pour assurer sa libération. 200 000 livres. Dans notre région, la commanderie de Monsonnès est installée dès 1156. Le seul vestige qui nous reste est la chapelle romane. Elle est intéressante par son symbolisme chrétien. Une rosace de 13 cercles. C'est le Christ, soleil, entouré des 12 apôtres. La façade ouest est surmontée d'un clocher à 5 ouvertures. Le portail est encadré par 4 colonnettes surmontées de chapiteaux représentant des scènes évangéliques. En entrant, la voûte en plein cintre est complètement peinte de semis d'étoiles à 8 branches. Une croix se dégage de l'ensemble. Toutes les peintures ont une signification symbolique, en couleur ocre, cercle, triangle, le tout délimité par 2 rangées de carreaux blancs et rouges. Côté ouest, une fresque montre un cerf suivi par un chien. Côté droit de la porte, un agneau. Le cœur est éclairé par un triplet sculpté. On remarque une roue à 8 rayons. La commanderie de Monsonnès, alliée au comte de Comminges, donna plusieurs chevaliers aux Templiers, ainsi qu'aux hospitaliers. Cette implantation aux confins du Comminges et du Couserans correspond à une action menée en protection des morts et afin de permettre une action des Templiers en croisade en Espagne pour aider la Reconquista. De la maison du Temple de Sales près de Carbone, il ne reste rien. Celle-ci était subordonnée à Monsonnès. Elle était liée à la commanderie des hospitaliers de Lavelanet de Comminges, toute proche, au lieu-dit La Salvetat de Serres. Il y avait une sauveté dépendant des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ralliée aussi à Monsonnès, ceci sur l'axe de la voie romaine allant vers Toulouse. Et il s'agissait d'une modeste étape à la disposition des pèlerins et malheureux de passage. Sa fouille, très intéressante, réalisée par Gabriel Manière, nous donne une vue exacte des misères de ce temps, montrant le rôle charitable de ces moines chevaliers. nous sommes maintenant sous le règne de Philippe IV le Bel, enrichi par des possessions foncières constituées d'une armée puissante. Les Templiers sont-ils susceptibles de menacer la monarchie? Et Philippe le Bel compte bien leur barrer la route. Son conseiller Guillaume de Nogaret va parvenir à faire germer le soupçon, puis l'inquiétude. Nogaret organise une campagne de diffamation relayée par des accusations destinées à préparer l'opinion publique à une action contre les chevaliers. C'est ainsi que les frères se laissent arrêter sans résistance. Clément V, le pontife, abandonnera les Templiers à leur destin, certains admettant avoir commis des actes outrageants, des rites secrets, des actes humiliants. Le 13 mars 1314, après avoir à nouveau déclaré l'innocence du Temple, Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, et Geoffroy de Charny, son second, seront brûlés sur une petite île de la Seine, l'île aux vaches, les biens spoliés de tous les Templiers. Qu'en est-il de la malédiction des Templiers? Eh bien, suite à cela, le pape mourut un mois après, le roi, dans l'année, sa descendance s'éteindra quelques années après. C'était la fin de l'ordre des Templiers. On a beaucoup parlé d'un trésor des Templiers caché après leur chute, qui a créé une légende toujours vivace, que certains recherchent toujours d'ailleurs. Quant aux Templiers, la plupart des commanderies seront mises sous la tutelle des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et d'autres ordres de moines soldats. Voici les sources bibliographiques qui m'ont permis de réaliser cette émission. D'abord, un numéro d'Historia très intéressant, « Les Templiers, ils livrent leur dernier secret » qui est sorti en 2008. Ensuite, « Les Templiers, une chevalerie chrétienne au Moyen-Âge » d'Alain de Murgère chez Seuil en 2005. Puis, « Le procès des Templiers » d'Yvan Gaubry chez Perrin, 2003. Ensuite, un établissement des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, La Salvetat de Serres, à Lavelanet de Comminges, de Gabriel Manière, 1977, dans Archéologie médiévale. Puis, l'église des Templiers de Monsonnès, par l'abbé Pierre Auger, qui est dans la revue de Comminges de 1982. Et enfin, les peintures murales au XIIIe siècle, contribution à l'étude du décor peint des églises de Monsonnès, et de Castillon en Couserans, c'est dans la revue de Comminges de 2014 et c'est d'Emmanuel Garland. Merci.
C'était au mois de mai que je fus adoubé dans la commanderie de Montigny-l'Allier. En ce quinze jour, ma joie ne se fut comparée qu'à celle des amants qui ont le cœur comblé. Quand je reçus de l'or la cape immaculée, marquée de la croix rouge à l'épaule brodée, le grand maître séant a daigné me parler: sois fidèle et ardent, car tu es templier. Depuis sur terre et mer, nous avons guerroyé. Partout dans le désert, sous le ciel mordoré, des Sarrasins maudits, je me suis fait connaître comme un vrai chevalier, seul mérite de l'être. Combien de missions menées jusqu'à leur terre, combien d'engagements qui l'ennemi consterne, par le fer de ma lance au Mousséan sacré, de Syrie en Provence, j'ai servi chrétienté. Or aujourd'hui enfin me voici allongé dans de la paille fraîche où j'entends psalmodier. Là-haut dans la chapelle c'est l'office des morts. Courage, Dieu t'appelle, tu arrives au port. Aux lointaines champagnes, pays de mes aïeux, ton ciel ennuagé m'a bien manqué un peu. Sous le firmament bleu et le ciel étoilé, qu'on voit toute l'année au crac des chevaliers. Sur mon honneur, Seigneur, j'ai votre foi jurée. Je vous rends mon cœur pur et mon épée sans tache. J'ai combattu pour vous sans repos ni relâche. Je vous rends mon épée avec son baudrier. Si veut Dieu protéger ce pays qui est vôtre, vous y marchez jadis, suivi de vos apôtres. J'ai parcouru ces routes et suivi ces sentiers. J'ai chevauché sans doute où vous posiez le pied. La route qui s'achève même en paradis. Saint et sainte de Dieu, aidez-moi en ce jour. Saint Georges et Saint Maurice, qu'il ne soit jamais dit que vous m'ayez laissé privé du Dieu d'amour. Sire Dieu de merci, sire Dieu de bonté, dans mon cœur pour un autre il n'y eut jamais place. Grâce au agneau de Dieu qui toute faute efface, grâce à Dame Marie à qui l'ordre est voué.
Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.